Mémoire vive,
présentée par Vincent Lemaire
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Un invité exceptionnel aujourd'hui dans Mémoire vive, Piotr Sivinski, bonjour.
Bonjour.
Piotr Sivinski, vous êtes historien et vous êtes depuis 2006 le directeur du musée mémorial d'Auschwitz et vous êtes de passage à Paris cette semaine à l'occasion notamment d'une journée d'études qui s'est tenue mardi à la Sorbonne. Journée d'études intitulée « Traces de guerre, le futur d'Auschwitz ». Alors Piotr Sivinski, pour commencer, j'aimerais que vous nous commentiez une déclaration que vous avez faite à un journaliste français. C'était en avril 2009. Vous aviez dit à ce journaliste venu à Auschwitz, je vous cite, là j'ouvre les guillemets, « On se sent terriblement seul quand on doit prendre des décisions ici ». Alors pouvez-vous nous expliquer les raisons de ce sentiment de solitude éprouvé par le directeur du musée d'Auschwitz ?
C'est le manque de points de repère avant tout. Dans des décisions, je ne sais pas moi, tout genre de décisions, on a besoin de points de repère. On a besoin de se référer à d'autres endroits, à d'autres lieux, à d'autres sites, à d'autres éléments historiques. Et ce site-là est pratiquement unique. Cette histoire-là, elle est unique. Il n'y a pas de point de repère.
Alors cette journée d'études qui s'est tenue à la Sorbonne mardi, c'est une façon de rompre cet isolement ?
C'est toujours très important, je crois, de parler sur des thèmes très difficiles. De croiser des regards différents, de se comprendre mutuellement, parce que si je suis en responsable du site, j'en suis certainement pas propriétaire et j'en suis pas l'élément décideur premier, ça fait partie du patrimoine juif, du patrimoine polonais, du patrimoine européen, mondial, et je suis en besoin fondamental de débat, si vous voulez.
Alors, le titre de votre intervention à cette journée d'études, Auschwitz, site mémoriel du 21e siècle, réalité, enjeux, questions. Ces enjeux, ces questions, nous allons les aborder ensemble. Après ce bref rappel, donc Auschwitz-Birkenau, c'est le site où 1 100 000 personnes, dont 1 million de juifs, ont été assassinés entre 1940 et 1945. Auschwitz-Birkenau, c'est au sud de la Pologne, un site de 200 hectares sur lesquels on trouve 155 bâtiments et 300 ruines. Les bâtiments abritent plus de 100 000 objets et une partie des archives SS. Alors que faut-il dire d'ailleurs, Piotr Sivinski, que vous dirigez un musée, un mémorial, un lieu de mémoire ?
Un cimetière, je n'en sais rien. Encore là, je reviendrai à ce manque de points de repère. Il n'y a pas de bon terme. La terminologie normale, elle est née dans un monde normal. Elle ne sied pas à un monde anormal. Certains disent que c'est le plus grand cimetière du monde, mais à un cimetière, on amène des gens qui sont déjà morts et pas des gens vivants pour les y tuer. Il n'y a pas de bon terme. Le plus souvent, je parle d'Auschwitz, tout simplement.
Qui est devenu un mot générique ?
Un mot symbole aussi. D'ailleurs, ça peut poser problème, comme le mot de l'Holocauste. Maintenant, on veut dire tout et rien, pratiquement. On parle de l'Holocauste à n'importe quelle situation politique, sociale ou intellectuelle. Parfois, j'ai un peu peur que tout symbole, en fait, s'effrite. Ce serait dangereux.
Alors pour le directeur que vous êtes, deux missions principales, organiser au mieux les visites du site, nous y viendrons si vous voulez dans un moment, et vous avez une autre mission fondamentale, assurer la pérennité du site d'Auschwitz, parce que les traces de l'histoire sont fragiles, Piotr Sivinski.
C'est le plus important, c'est la base je crois, surtout au moment où les témoins et survivants commencent à nous manquer terriblement. Ce qui reste, ce qui est palpable, ce qui est touchable, ce qui est à voir, devient quelque chose de très, très important, de fondamental dans notre mémoire, dans l'enseignement de cette mémoire. Et pourtant, les objets, les bâtiments, les restes ne sont pas éternels non plus, hein, il faut bien se le dire. La lisibilité du site, à mon avis, est quelque chose de complètement fondamental et c'est un pari, c'est pas un gain.
Les bâtiments d'Auschwitz et surtout de Birkenau n'ont pas été faits et construits pour durer. Ils ont été construits rapidement et très vite, donc, des problèmes de conservation se sont posés.
Le plus grand problème, ce sont les baraques en briques de ce qui s'appelle le camp des femmes à Birkenau. des briques prises sur des maisons paysannes, des briques faibles, des briques réutilisées, des bâtiments construits par des prisonniers qui n'étaient certainement pas des ingénieurs en bâtiment ou des ouvriers du bâtiment. Bon, sur un terrain humide, n'est-ce pas, donc qui bouge, il y a encore une dizaine ou peut-être une quinzaine d'années, 90% de ces baraques en briques de Birkenau étaient accessibles. Maintenant, on en est certainement en dessous de la moitié. C'est, je crois, l'exemple le plus concret de l'enjeu qu'on est en train de vivre actuellement.
Alors, à la tête du musée mémorial, à la tête d'Auschwitz, vous disposez d'un budget, alors mes chiffres ne sont peut-être pas très récents, vous allez me corriger, Piotr Sivinski, vous disposez d'un budget d'un peu plus de 6 millions d'euros annuels, 45% de ce budget vous vient du gouvernement polonais, 50% de vos ressources propres, et puis 5% d'aides diverses, et ce budget, si c'est les bons chiffres que j'avance, ne vous permet pas d'assurer l'avenir du site.
Vos chiffres sont bons, malheureusement. C'est-à-dire, bon, institutionnellement, on fait notre travail, mais on en arrive à un moment où il faut envisager un travail complètement différent, un travail de sauvegarde en profondeur, avec des plans établis sur 15 ou 20 ans, pour être sûr que dans 30 ans, lorsqu'il y aura une nouvelle génération qui arrivera sur ce site, cette nouvelle génération va pouvoir lire de ce site son histoire. C'est un grand problème parce que dans nos démocraties contemporaines, il n'y a pas de programme financier sur 20 ou 25 ans. Ça arrive dans le militaire, peut-être, mais pas dans le culturel, pas dans le patrimoine. La solution que l'on a trouvée, c'est de essayer de construire un fonds perpétuel, immuable, dont les intérêts pourraient être suffisamment grands pour permettre justement d'étaler les travaux qui sont à faire sur 20 ans.
Alors c'est pour cela donc que vous avez lancé, Piotr Sivinski, en juin 2009, la fondation Auschwitz-Birkenau, qui devrait être dotée donc de 120 millions d'euros, et le patrimoine de cette fondation rapporterait 5 millions de dividendes par an pour assurer donc les travaux de préservation et donc assurer l'avenir du site. Alors, en décembre 2009, toujours par la presse, on apprenait que l'Allemagne allait prendre en charge la moitié de ces 120 millions, de cette dotation initiale de la fondation, donc 60 millions d'euros. Et vous aviez, je crois, à l'époque sollicité 40 pays. Où en est-on donc à la date d'aujourd'hui, à la fin du mois de mai 2010?
Pour l'instant, la réponse allemande a montré que le projet est valable, que le projet fait confiance, que aspire confiance, que le projet est réalisable. Je crois avoir atteint la moitié de cette somme en moins d'une année, c'est quelque chose qui permet une vision optimiste. Ensuite, il y a l'Autriche qui a promis début mars, je crois, de cette année, environ 6 millions d'euros. Et puis, il y a toute une série de pays qui ont donné des petites sommes pour commencer, je veux dire, pour lancer le thème, pour ne pas le laisser mourir. Nous nous approchons donc de 70 millions actuellement. Nous avons des débats assez avancés avec un nombre d'autres pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, etc., la France aussi. Je pense que cette année-là va nous rapprocher de la somme que nous espérons obtenir.
Alors vous en êtes où justement de vos négociations avec la France? Parce que justement, quand vous avez lancé ce projet de fondation, les premières réponses du côté français étaient plutôt l'idée qu'il faudrait une aide européenne plutôt qu'une aide pays par pays.
Je crois qu'une aide européenne serait en général bienvenue, bien sûr. Néanmoins, à partir du moment où certains pays ont déjà avancé des sommes, dont l'Allemagne et l'Autriche, considérables, je crois qu'il faut quand même boucler cette étape d'aide gouvernementale. Les pays, je crois, européens ou démocrates, ou les pays qui ont une vision d'Auschwitz, qui sentent un besoin, je veux dire, d'Auschwitz, je dirais presque, même si ça sonne peut-être terriblement, les pays qui envoient des dizaines de milliers de jeunes gens, d'écoliers, des futurs citoyens, en fait, prendre la mesure d'Auschwitz, ce sont des pays qui ont donc une volonté gouvernementale de cette mémoire. Et je crois qu'on ne peut pas passer trop rapidement sur cela. Ce n'est pas un projet uniquement historique, un projet de mémoire tourné vers le XXe siècle, vers le souvenir, je dirais. C'est plus que cela. C'est un projet, bien sûr, de mémoire, mais tourné vers le XXIe siècle, vers l'avenir aussi, vers ce site-là. Le site d'Auschwitz est visité actuellement par 70% de jeunes gens. Cela montre très bien, je crois, que c'est un site du passé, mais dont le besoin fondamental est dans le futur.
Alors, rappelons que depuis 1979, le site d'Auschwitz-Birkenau est inscrit à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, quelle va être votre doctrine, Piotr Sivinski, justement pour mener les travaux de préservation de ce site d'Auschwitz? Doit-on parler de restauration, de reconstruction à l'identique de certaines parties du site, ou bien faut-il parler de préservation en l'état du site d'Auschwitz?
J'utilise volontiers le terme de conservation. C'est quelque chose de...
Parce qu'évidemment, derrière ce jeu terminologique, il y a des questions morales évidentes qui se pressent derrière.
Il y a plus, il y a toute une vision, je veux dire, de ce que l'on veut garder. Certainement pas reconstruction. Certainement pas, cela n'est pas nécessaire. Cela n'est pas bon, je n'y vois aucun élément d'espoir à l'avenir. Une maquette, ce n'est pas l'authentique. Si on peut essayer de sauver l'authenticité, il faut essayer de le faire. Même si cela attire des coups assez grands. Le but, c'est la lisibilité de cette authenticité. C'est cela qui parle, en fait, aux gens. Les conservateurs diplômés que nous avons sur le site depuis quelques années développent, en fait, toute une méthode qui préserve en essayant de limiter au maximum toute ingérence, toute nouveauté, tout changement, je veux dire, de ce que l'on veut préserver.
Alors, juste pour prendre la mesure, hein, ce ne sont pas des questions que purement matérielles, parce qu'évidemment, elles engagent une réflexion derrière fondamentale. La restauration d'un bâtiment en briques coûte 1 million d'euros, 2 ans de travaux. La restauration d'une des 22 baraques en bois de Birkenau, 300 000 euros. La restauration d'un mirador sur le site de 20 000 à 40 000 euros. Et que faire, Piotr Sivinski, des 80 000 chaussures? Que faire des 3 800 valises? Que faire des 40 kilos de verres de lunettes?
C'est à chaque fois des problèmes terribles, parce qu'on est confronté non seulement à une profondeur émotionnelle, mais aussi à un nombre énorme. Et chacune de ces chaussures a son histoire, même si on ne la connaît pas. Chacune de ces chaussures a été portée, même si on ne sait pas par qui. Les chaussures, par exemple, il serait impensable de demander à un conservateur diplômé de faire 80 000 chaussures à raison de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures par chaussure. Ça lui prendrait toute sa vie.
Parce que j'imagine qu'il faut traiter le cuir pour arrêter la dégradation.
Il faut traiter le cuir, il faut nettoyer, il faut voir ce qui se passe, il faut regarder quel est le rapport entre la semelle et le cuir, etc. Bon, ce sont des différents matériaux, c'est difficile déjà en soi. On peut consacrer à une chaussure 2 à 3 heures, je veux dire, certainement pas plus de temps, étant donné le nombre. Un pari assez fou a été pris par mon prédécesseur. Il avait demandé à des lycéens des environs de faire en fait des sortes de stages en été de 2 ou 3 semaines, et après une journée de préparation et sous l'œil d'experts en conservation, ces volontaires, en fait, lycéens, ont fait une énorme partie du travail. Les travaux nécessaires sur ces chaussures. Et en fait, bon, grâce à cela, les chaussures ont pu être sauvées. Et grâce à cela, un travail éducatif, je dirais presque formatif sur ces jeunes, a été possible, parce que l'on entre dans une relation d'émotion, forcément, avec une histoire que l'on touche.
Alors, il y a un laboratoire de conservation installé sur le site, avec près de 40 personnes qui travaillent, une dizaine de scientifiques qui expérimentent donc des techniques nouvelles pour conserver une valise, une brosse à dents. Et qu'est-ce qui va se passer, Piotr Sivinski, avec les 2 tonnes de cheveux?
Bon, les cheveux, c'est différent. Ce sont des parties humaines. On ne peut pas traiter des brosses à dents ou des chaussures ou des valises comme on traite, je veux dire, intellectuellement, comme on traite les cheveux. Je suis aidé par un conseil international d'Auschwitz, 25 personnes du monde entier, qui discutent les questions les plus difficiles. Et les cheveux, Dieu sait si c'était une des questions les plus difficiles. D'un côté, il y a ceux qui voudraient qu'il soit enseveli. On perdrait à ce moment-là un symbole très très fort, un moment inoubliable, un lieu de prise de conscience, je dirais, terrible. D'autre part, si on veut conserver ce moment de prise de conscience que sont les cheveux, il aurait fallu les traiter donc avec une chimie qui en fait remplacerait ce qui y manque de plus en plus. Au bout de 5, 6 ou 7 fois, on arrivait à un idéal de perruque qui aurait plus de chimie que de cheveux. Ce qui serait macabre, je veux dire, de montrer de l'artificiel, n'est-ce pas, dans un moment si important. Après des heures et des heures de discussion, Israël Gutman de Yad Vashem a dit que plus il réfléchit, plus il se sent moins en état de prendre une décision qu'il trouverait moralement juste, moins il se sent, j'allais dire, propriétaire de cette capacité de prendre une décision. Et c'était pour moi un moment très très fort, parce que voilà, 25 experts, les plus grands experts du monde en la matière, se sont trouvés pas assez fort ou pas assez en place pour prendre une décision en ce qui concerne ses cheveux. Ses cheveux, on n'y touchera pas. Probablement, ils tomberont de plus en plus en poussière.
Alors, Piotr Sivinski, il y a la restauration des bâtiments. Qu'en est-il de ce qu'on verra à l'intérieur des bâtiments, de la muséographie, du musée même d'Auschwitz? Donc, à la base, donc, un lieu symbolique à Auschwitz du martyr polonais au moment de la création du musée en 1947. Et la muséographie de l'exposition principale dans les principaux pavillons donc, du site d'Auschwitz date encore de cette époque. Qu'est-ce qui va se passer dans ces blocs, dans ces bâtiments d'Auschwitz?
Nous sommes en train de terminer une repensée totale de cette exposition. Cette année-là, je pense que nous allons certainement en été boucler le scénario de la nouvelle exposition, puis nous lancerons un concours international. Je crois que c'est une question qui n'est pas facile, parce que d'un côté, cette exposition qui est actuellement en place, c'est une exposition qui a été mise en place par les survivants d'Auschwitz, donc c'est dur pour ma génération de la changer quand même. D'autre part, il y a toujours plus de questions que de réponses au niveau philosophique, comment en parler. Troisièmement, une responsabilité qui est énorme, qui nous dépasse tous, parce que l'imagination du futur dépend en fait d'une narration que nous voudrons y mettre. Et toute erreur, tout manque, toute déviation, je veux dire, toute disposition d'accent, en fait, peut avoir une implication dans un réel très, 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 très concret, dans 20 ans, par exemple. Il y a trois histoires, je crois, que l'on va y placer. Il y a une première histoire, c'est l'histoire d'un camp comme d'une institution, de quelque chose qui a été institué par des gens très concrets, qui a été agrandi, qui a été aménagé, qui a été pensé à la solution finale, qui a été ensuite démantelé, etc.
Rappelons que encore sur cette histoire-là, on fait des découvertes récemment. Enfin, je crois que c'était l'an dernier, on avait retrouvé donc à Berlin des plans du site d'Auschwitz-Birkenau. Donc, on fait encore des découvertes en cette matière.
Il est très clair. Ça sera aussi une partie où il faudra parler des bourreaux, de leur structure, de leur vision, de tout ce qui est institution. Je crois que c'est quelque chose qui manque terriblement aujourd'hui. Les nouvelles générations ne voient que la victime. C'est très important qu'ils la voient et qu'ils la sentent. Mais il ne faut pas oublier qu'anthropologiquement, le problème, le grand problème, c'est le bourreau. Une deuxième partie sera dédiée à la Shoah, et ce ne sera pas toute la Shoah, hein, parce que nous sommes à Auschwitz. Et le but, c'est de rendre le site authentique, lisible. Je pense que ce sera une partie qui suivra plus ou moins les photos de l'album Auschwitz, donc depuis le wagon, à travers la séparation des familles, à travers la sélection, la dernière marche, l'attente et la mise à mort. Et là, nous reprendrons ces objets qui font la force de l'exposition actuelle, ces valises, ces chaussures, justement, toutes ces choses qui sont devenues en fait des symboles de la Shoah en soi. Et une troisième partie qui relatera du camp de concentration. Et son axe principal, ce sera cette politique de déshumanisation qui est propre au camp, qui a été donc imposée à tous ces prisonniers, qui ont perdu leur nom, qui ont reçu des numéros, qui ont été petit à petit détruits et tués par les maladies, le travail ou les exécutions sommaires.
Alors, Piotr Sivinski, une autre série de questions qui porte sur le thème de la visite d'Auschwitz-Birkenau. Comment expliquez-vous qu'il y ait aujourd'hui, les années passées, plus de 1 200 000 visiteurs par an contre 500 000 en 2001 ?
Je crois que c'est un paradoxe peut-être. On aurait pu penser que les générations qui passent, les nouvelles classes, etc., bon, qu'on s'éloigne de cette histoire et qu'elle deviendra de plus en plus une histoire, je dirais, une histoire de, un peu comme la Première Guerre mondiale pour moi, ou comme, je ne sais pas moi, le 19e siècle pour mes parents. Mais en fait, je crois que plus ou moins inconsciemment, on voit que c'est un point charnière pour notre civilisation. Je veux dire, on ne peut pas comprendre, par exemple, l'Europe d'après-guerre si l'on perd le sens de ce qui s'est passé pendant la guerre.
C'est pour ça que quand un touriste coréen visite Auschwitz, il dit « je viens à Auschwitz parce que pour moi c'est l'Europe, c'est aussi
ça
l'Europe ».
Je veux comprendre l'Europe, il m'a dit. Et ça m'a ouvert les yeux. Je crois qu'en effet, toute notre énorme effort d'après-guerre, d'essayer de construire un monde quand même différent, un monde communautaire, un monde interdépendant, un monde d'échange, de responsabilité mutuelle, c'est pas parfait, on est bien d'accord, je suis loin ici de construire une Europe rose, magnifique, enfin bon, un effort complet de changement de toutes nos relations, c'est incompréhensible sans une plongée intellectuelle profonde dans ce que fut la Shoah, dans ce que fut le régime nazi, etc. Et il me semble que les gens ont besoin de se poser cette question, que les gens ont besoin de voir qu'est-ce qui est à la base, enfin, quel est ce point dont on veut s'éloigner, dont on veut s'échapper, dont on veut construire des garde-fous, en fait. La géographie de ces visites change énormément. Et au début des années 90, se fait pratiquement, mis à part les Polonais, l'Israël qui a commencé à arriver, quelques pays d'Europe occidentale, surtout l'Allemagne, la France, la Belgique au départ, les États-Unis. Dans la seconde moitié des années 90, nous avions l'arrivée de l'Europe méditerranéenne et de l'Europe centrale. Et maintenant, dans les années 2000, on voit l'arrivée de l'Asie, une Asie massive, justement ces Coréens dont nous arrivent à peu près 40 000 par an, mais aussi du Japon, etc. Il y a une géographie de ceux qui visitent et il y a aussi, malheureusement, une géographie de ceux qui ne visitent pas.
On peut bien sûr alors se féliciter de la hausse vertigineuse du nombre de visiteurs d'Auschwitz-Birkenau, donc plus d'1 200 000 personnes par an. Mais Piotr Sivinski, comment conserver la dimension sacrée du lieu de souvenir quand pendant les mois d'été, les cars de tourisme arrivent par dizaines chaque jour?
C'est très difficile. En été, aux heures de pointe, comme on le dit, parce qu'il faut y arriver en provenance de Cracovie le plus souvent, nous avons à peu près une classe entière qui entre toutes les 2 minutes. 30 classes par ou groupe de la grandeur d'une classe par heure. Nous avons mis en place pour l'instant sur Auschwitz 1, parce que c'est là que le problème est le plus grand, c'est un relativement petit site Auschwitz 1 comparé à Birkenau. Nous avons mis pour l'instant un système où dans ces heures de pointe, il faut entrer avec un guide, avec un groupe organisé, parce que cela permet encore de gérer plus ou moins le passage. Les individuels doivent passer tôt le matin ou en fin d'après-midi, pendant la période estivale. Mais il est clair que si cela montera encore plus, si on arrive à 1 800 000 par exemple, il faudra repenser complètement ce système. Pour l'instant, on essaye d'éviter des inscriptions au préalable ou je ne sais pas quelles autres méthodes seraient possibles, mais la situation peut changer.
Alors, la visite d'Auschwitz n'est pas la même que la visite de Birkenau. Piotr Stiwiński, faut-il préserver la force du site en lui laissant pour une part son dépouillement, un dépouillement qui permet le recueillement?
Birkenau est un espace qui est terrible, hein, qui donne qui crée en fait une imagination énorme de ce qui s'est passé, justement par le vide, par l'espace, par la grandeur, par la répétition de ces vestiges, etc. Je crois que le choix d'après-guerre de faire de la muséologie, de la didactique, de l'historiographie à Auschwitz I et ensuite de voir Birkenau dans un état tel quel et de se rendre compte de la dimension était un choix qui peut être exploité et qui peut encore être plus proposé. Les gens ont besoin de recueillement à Auschwitz.
Piotr Stiwiński, je vous remercie. C'était Mémoire vive, une émission proposée par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Une émission que vous pouvez retrouver sur le site internet de RCJ, www.radio-rcj.info, sur le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, et enfin, avec toutes nos archives, sur le site mémoirevive au pluriel.net.